C'est vous qui le dites.
L'émission d'info locale.
Brest.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans notre quotidienne C'est vous qui le dites. Alors aujourd'hui on va parler art de la rue, on va parler culture hip-hop et surtout graffiti, car se tient à Passerelle, centre d'art contemporain ayant déménagé rue Château à Brest, l'exposition Brest sous les bombes. Loïc Leguel, vous êtes directeur de Passerelle. Emmanuel Balédier, vous vous occupez de la communication et des partenariats. Et Pascal Varambon, alias Oiseau, vous êtes graffeur et l'auteur de l'ouvrage pour tout l'or de Brest. Donc bonjour et bienvenue à C'est vous qui le dites.
Bonjour.
Bonjour à toutes et tous. Bonjour Chloé.
Vous allez bien?
Très bien, merci.
Super.
Alors vous étiez venu justement dans C'est vous qui le dites l'année dernière pour nous parler, nous évoquer de l'exposition de Sophie Cure. Comment s'est passée la suite pour vous à Passerelle?
Alors la suite, ça a été donc l'exploitation de l'exposition qui a été assez réussie parce qu'on a eu pas mal de visiteurs et de visiteuses. Ça a été aussi une bonne réception critique. Donc on était très contents et puis on a commencé à envisager le déménagement de Passerelle puisque pour des raisons, on va dire, de sécurité incendie, des raisons assez on va dire, légales, nous avons dû faire des travaux dans le bâtiment de la rue Berthelot, donc dans le quartier de Saint-Martin. Et donc pendant un an, depuis janvier jusqu'à janvier 2027, nous avons déménagé à l'ancien cercle naval de la Marine nationale, au 52 rue du Château. Donc pas loin du Quartz, vraiment juste à côté du Quartz. On propose aussi des expositions dans ce lieu-là et aussi des manières différentes d'approcher la médiation et la pédagogie avec une ouverture d'un lieu particulier dans le bâtiment où on peut venir faire de la pratique artistique aussi.
Donc le déménagement est définitif, j'imagine ?
Non, il est pour un an.
Il est temporaire.
Okay. Il est temporaire, tout à fait. Après, on rejoindra nos pénates à Saint-Martin par la suite. Mais c'est un bâtiment qu'on aime beaucoup et on aimerait bien envisager des suites dans ce bâtiment qui est sous-utilisé ou peu utilisé. Donc on verra, on va discuter avec la nouvelle mairie.
D'accord, ok. Et donc dans un premier temps, je vais m'entretenir avec vous, Loïc Leguel, et ensuite avec toi, Oiseau. Enfin, je ne sais pas si je vous tutoie ou pas. Mais
le tu est très bien.
Ouais, ok, je tutoie. Loïc, tu parlais d'ateliers. Donc à Passerelle, vous avez mis en place justement l'atelier des publics. Donc c'est un programme de sensibilisation à l'art contemporain. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste l'atelier des publics?
Bien sûr. Alors il y a plusieurs strates, j'ai envie de dire, dans l'atelier public. D'un côté, il y a vraiment un lieu physique qui est destiné à l'accueil de publics, depuis des publics scolaires à des publics du champ social. On a de tous les âges, depuis des enfants vraiment qui sont des nouveau-nés avec les crèches municipales de la ville, en passant par l'université qui on reçoit des étudiants, des étudiantes, et jusqu'à des personnes âgées, en fait, ou des personnes en situation de handicap aussi. Donc, c'est vraiment un lieu déjà de ressources où on vient faire des pratiques artistiques. C'est un endroit où on vient découvrir ce que c'est l'art contemporain. Donc, c'est une première partie. Et après, c'est tout un programme de pédagogie, de sensibilisation autour des arts visuels pour pouvoir faire aimer, en fait, faire découvrir ce que c'est que l'art contemporain, à la fois, du coup, dans les murs du centre d'art, mais aussi beaucoup sur le terrain, en fait, parce qu'aussi nos équipes vont dans les écoles, vont dans les EHPAD, vont en prison, vont dans plein d'endroits pour pouvoir présenter un petit peu notre travail, le travail des artistes.
Donc, comme tu disais, Loïc, donc à Passerelle, il y a de la pédagogie, de la sensibilisation, mais il y a aussi de l'exposition, en tout cas promouvoir des artistes. Donc là, il y a une exposition en cours, Brest sous les bombes. D'où vous êtes venue l'idée justement de réaliser une exposition sur le graffiti et plus précisément sur les arts de la rue à Brest?
C'est toujours un sujet qui m'a intéressé et Passerelle a paradoxalement toujours été vu à Brest aussi avec un prisme parfois lié à l'art urbain, puisqu'on a certains artistes qui sont passés par Passerelle, même si c'est pas très connu dans l'histoire de l'art urbain et même dans l'histoire à Brest. Et donc ça, c'est une première partie de la réponse. La seconde partie, c'est que j'avais pu visiter il y a quelques années une exposition qui s'appelait Aérosol, qui était une exposition au Musée des Beaux-Arts de Rennes, qui a aussi été au Musée des Beaux-Arts de Nancy, et qui était vraiment une exposition assez emblématique, moi, je trouve, justement, des pratiques des arts de la rue. Parce que souvent, on a beaucoup d'expositions qui sont assez mauvaises, qui sont des espèces de catalogues, souvent avec des noms extrêmement grand public, depuis Banksy, AJR, ou ce genre de choses. En fait, on montre une part de ce que c'est finalement l'art urbain très lié au marché, lié à une consommation massive. Et en fait, essentiellement, c'est pas ça. En fait, c'est toujours une partie que l'on voit de l'iceberg. Et finalement, 90%, 95% de la pratique, elle est pas liée à ces personnes-là. Et l'exposition Aérosol, justement, elle expliquait un peu, d'un point de vue vraiment intelligent et bien fouillé, très scientifique presque, qu'est-ce que c'est que cette histoire de l'art, de l'art urbain. Et l'exposition m'avait vraiment fasciné, depuis une espèce de grande fresque qui expliquait l'usage de l'aérosol, la bombe aérosol et son détournement par les graffeurs, puisqu'en fait c'est initialement un objet pour la vie quotidienne, pour peindre facilement dans sa maison, et c'est devenu un objet qu'on peut facilement cacher, utiliser dans la rue rapidement, et qui du coup correspondait à un usage caché et vandale de cet art. Et il y avait une partie aussi dans l'exposition autour de la Bretagne et une toute petite partie sur Brest. Et j'avais conscience que Brest était une scène assez importante dans l'émergence de l'art urbain en France. Et j'ai pu prendre contact avec les commissaires de l'exposition qui s'appelaient Patrice Poche et Nicolas Xellet. Et ensemble, on a eu l'envie, on a envisagé de faire un travail spécifique sur la ville de Brest, qui méritait particulièrement, puisque c'est une scène qui est concomitante à celle de Paris en termes de chronologie, et donc une des premières en France. Et le résultat, il est là, avec une exposition qui introduit ce que c'est qu'en effet, encore une fois, la bombe à aérosol. Et à partir du spray, finalement, on parle de cette histoire à Brest, qui a eu lieu depuis 1984 jusqu'à 2004, avec un bornage qu'on a voulu précis aussi, sur 20 ans, mais aussi qui a une explication. Même puisqu'en fait en 2004 on arrive à la fin de l'exposition puisqu'on a l'arrivée un peu d'Internet et de nouveaux usages, une nouvelle consommation enfin on va dire de l'art urbain, mais aussi un livre emblématique qui s'appelle le Westbook, qui est un livre qui va rassembler le travail de 90 à 100 artistes du territoire breton, et ces artistes vont transférer, donner des dessins. Et ça va être un peu un état de l'art à un moment donné de ce qui s'est passé en Bretagne, un peu un arrêt sur image assez fascinant. Et donc, c'est le bornage, c'est la fin de l'exposition. Elle se termine sur ce livre et sur la diffusion massive par Internet. Enfin, massive en 2004, ce n'est pas le cas parce qu'on est encore sur les modems 56K qui font des petits bruits lorsqu'on les lance. Mais en tout cas, il y a une manière de voir, de consommer, de comprendre, à mon avis, l'art urbain et le graffiti qui est très différent à ce moment-là.
Donc, comme tu l'as dit, Loïc, on raconte l'histoire des arts urbains, de l'art urbain à Brest, à travers l'exposition Brest sous les bombes. À Passerelle, il y a quand même une ambition. Vous remettez en question l'espace normatif du musée, voire élitiste du White Cube, en exposant une pluralité de médias. À travers l'exposition, on peut voir à la fois des vidéos, du dessin, du graffiti, même des installations. C'est qui est à l'origine justement de cette idée-là?
À l'origine de déstructurer
L'espace un peu normatif enfin, l'espace d'exposition un peu du White Cube, un peu conventionnel, au mur blanc, etc. Là, c'est un peu foisonnant quand on voit l'exposition. Il y a du son, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de formes.
Déjà, le sujet en lui-même amène, on va dire, une idée de foisonnement, une idée de surplus, une idée d'énormément de documents. Donc ça vient des commissaires d'exposition, évidemment. Après, ça vient aussi du lieu en lui-même, puisque ça, on est dans un ancien restaurant, et on sort de la logique, en effet, de ce qu'on appelle le cube blanc, qui est ce qu'on imagine du musée, hein, c'est-à-dire des salles blanches avec des lumières. Là, on arrive dans un endroit qui est marqué, avec des moquettes, avec quelque chose qui est néo-art décoratif. Et donc, évidemment, les commissaires d'exposition, donc Nicolas Xellet et Patrice Poche, ils ont joué avec cet espace-là. Après, nous, à Passerelle, on a toujours aussi eu envie de travailler de manière différente les expositions. On sort souvent de la question justement de ce qu'on appelle du White Cube pour montrer l'art de manière un peu originale ou différente. C'est vrai que le modèle du musée, il n'est pas forcément celui du centre d'art, parce que le musée, il est vraiment dans une logique de patrimoine, de conservation, et le centre d'art, il est plus dans une idée de production, de communication, de médiation auprès des publics. Et donc, c'est vrai que cette logique du cube blanc, elle a tendance un peu à s'effacer souvent dans les expositions que l'on peut proposer au Centre d'Art.
C'est pas que dû à cette exposition-là, en fait, la scénographie, c'est vraiment spécifique du centre d'art, quoi, par rapport au musée.
Oui, tout à fait, à mon sens, hein. Mais après, c'est un point de vue très personnel aussi.
Ok. Et en fait, au cours de l'exposition, on peut voir des photographies de Louis Blonze, de Bruno Nicolas. On peut voir que parfois, ça vient des archives municipales de Brest. Ça vous... Ouais.
Tout à fait, oui.
Ouais, ok. Ça vous a pris combien de temps ce travail d'archivage de
Alors,
recherche?
ça, c'est le travail vraiment des commissaires. On va dire qu'ils ont passé vraiment un an de manière assez intensive à faire des allers-retours entre Rennes, Brest, Paris. Et à travailler sur le projet d'exposition. Après, c'est un travail de recherche qui aurait pu durer des années, en fait, aussi. À un moment, ils ont aussi dit stop, parce qu'en fait, jusqu'à même à la veille de l'exposition, on retrouvait de nouveaux archives, et on était dans une accumulation permanente. Après, ça fait aussi écho à ce que font les commissaires. Ils sont des membres actifs de Arcane, qui est un fonds d'archives qui a pour vocation à archiver les pratiques liées à l'art urbain et au graffiti et au street art depuis les années 70 à nos jours. Et c'est un travail qui est colossal, qui mène de manière, encore une fois, très scientifique et très réussie. Et donc, c'est aussi dans la logique d'accumulation de données qu'il développe depuis de nombreuses années qu'on a fait cette exposition-là aussi. Cette exposition, elle n'existe que par ces commissaires d'exposition qui sont des sommités dans leur sujet.
En fait, effectivement, je crois que parler du centre Arcane, c'est intéressant parce que c'est un centre qui a été créé en 2022, en tout cas. Et ils ont vu aussi dans l'histoire du graffiti qu'effectivement, Brest était un espace effectivement, qui avait été bien utilisé, en tout cas dans les années 80. Et du coup, c'est tout un travail qu'ils ont commencé en fait, de recherche pour... sur Brest, donc auprès de différentes MPT, rechercher aussi des gens qui avaient des images, parce que c'est vrai que on faisait sa peinture sur son mur, mais on prenait souvent sa photo de son mur, mais pas forcément les autres. Donc le Centre Arcane, effectivement, a fait tout ce travail de recherche depuis sa création, parce qu'effectivement, c'est un art éphémère, si on peut dire, parce que il est sur des murs, il est sur des espaces qui sont voués souvent en fait à être détruits. Et du coup, ils ont eu cette volonté véritablement de vouloir essayer de récupérer ou de rechercher tous ces documents, toutes ces œuvres en fait qui ont disparu. Et donc, c'est vraiment un gros, gros travail de fond, mais beaucoup effectivement ici avec les MPT aussi.
D'accord, ok. On le voit très bien en fait que dans l'exposition, justement, vous racontez l'émergence de groupes brestois, justement, enfin, qui font partie de cette culture populaire, de cet art éphémère. Du graffiti, il y a les Freakside, par exemple, qui est un groupe brestois qui a émergé dans les années 80, les Zulu Zone Junior, les Ninja Force et Acropole Groupe 88. Comment vous avez pu contacter ces groupes? Donc, du coup, si j'ai bien compris, c'est grâce à Arcane et au commissaire, en fait, qui ma question, en fait.
Tout à fait. En fait,
il y a la réponse avant, quoi.
Nous, on n'est pas des experts, d'ailleurs, du sujet. Hein.
Oui.
On est là un petit peu comme des amateurs. Maintenant, on découvre de plus en plus. Hein. Mais en effet, c'est vraiment le travail des commissaires d'aller défricher.
Ouais.
C'est le travail d'historien, en fait. Nous, on est là comme diffuseurs, d'une certaine manière, de leur recherche. On s'est pris au jeu, on a beaucoup appris, on a apprécié faire ce travail-là avec eux, mais c'est vraiment eux les experts du sujet, en fait. Hein. Donc, c'est eux qui ont contacté toutes les personnes.
D'accord, okay.
Ils ont un réseau assez conséquent aussi, parce que c'est des gens qui sont assez reconnus dans le monde du graffiti. C'est des gens qui sont aussi, un peu Patrice, il est aussi organisateur de la Biennale Teenage Kicks, qui est un gros événement à Rennes autour de l'art urbain et du street art et du graffiti. Donc, c'est des gens qui ont une vraie légitimité.
Oui.
Il y a vraiment une question de légitimité dans ce milieu-là. Moi, je suis historien de l'art, je suis commissaire, je ne suis pas du tout issu du monde urbain et de tout cela. Et donc, moi, j'apporte un regard un peu différent, plus d'historien, vraiment au sens strict. Hein. Et c'est vrai que moi, j'aurais beaucoup plus de difficultés, par exemple, à aller... trouver les personnes ressources, parce que je n'ai pas forcément les réseaux, et parce qu'on va considérer que peut-être je suis quelqu'un qui n'est pas du CRI non plus.
Mmh. Mais du coup, en fait, l'approche ethnographique, etc., dans l'exposition de par exemple, les installations qu'on peut voir, la chambre d'un enfant, d'un adolescent dans les années 80, on ne parle pas du tout de réappropriation culturelle ici, puisque clairement, les commissaires sont légitimes de parler de ça, puisqu'ils ils ont vécu ça et c'est un peu leur histoire qu'ils racontent. Et vous, vous offrez cet espace-là pour ces commissaires-là, si j'ai bien compris.
C'est exactement ça, tout
à fait. Et, justement, on va parler aussi au sein de l'exposition. Il y a juste une toute petite partie sur les indépendantistes bretons qui ont pris d'assaut la gare de Ploiret-Trégor en graffant Brisonnec, par exemple, sur le train. Semblable à mai 68, par exemple, il est interdit d'interdire, ou bien l'international situationniste. Est-ce que c'était important pour vous de relever cet aspect un peu politique du graffiti ou, de par les commissaires
C'est assez évident. Alors après, encore une fois, moi, je suis pas un expert, mais moi, j'ai l'impression que le graffiti, si on remonte même à l'origine de l'humanité, depuis les cavernes jusqu'à Pompéi, jusqu'à toutes ces questions-là, il a deux objectifs, quoi. Il a un objectif soit militant et politique, soit il a un objectif d'amour, quoi. C'est-à-dire que ça, c'est des déclarations d'amour, soit c'est des choses écrites qui expriment du politique. Et donc, en effet, c'était évident de devoir introduire l'exposition avec ces questions-là. Donc, les commissaires d'exposition, ils ont fouillé beaucoup ce qui a pu se passer dans les années 70 à Brest. Il y a assez peu d'archives sur la question du graffiti et du tag au sens strict, vraiment militant, dans la ville. Il y a peu d'images. Donc, ils en ont quelques-unes qu'ils ont pu identifier, qui sont beaucoup en lien avec justement le FLB, donc le Front de Libération de la Bretagne, justement toutes ces questions-là d'un impédantisme. Une autre question, c'est tout ce qui va être anti-Le Pen dans les années 80-90, donc anti-Front National. Et un troisième gros axe, c'est aussi tout ce qui est anti-nucléaire, puisque comme on le sait, à Brest, on a les sous-marins nucléaires français. Et donc, il y a tout aussi une mouvance autour de ces questions-là. Et aujourd'hui, on le retrouve beaucoup de manière... on voit tous de manière empirique dans la rue, lorsqu'on voit les tags antifa, ce genre de choses. Il y en a énormément à Brest aussi. Et donc, il y a cette introduction via ce prisme-là dans l'exposition et qui fait écho à tout ce qui s'est fait en effet à mai 68 qui a couvert la ville de Paris de tous ces graffitis.
D'accord, merci Loïc Le Gall de nous avoir parlé justement de l'exposition Brest sous les bombes. Est-ce que tu peux un peu nous raconter peut-être qu'est-ce qui va se passer à Passerelle au mois de juin? Vous allez peut-être changer d'exposition, il me semble.
Tout à fait. Alors, on ferme en juin et on réouvre le 2 juillet pour le vernissage.
D'accord.
Donc, venez tous. C'est un moment très festif, très sympa. On a de la bière, de la brasserie, du baril. Enfin, c'est très cool. Et on aura une exposition qui va rassembler entre 100 et 150 artistes. C'est un très gros projet qui s'appelle Draw. Donc, en anglais, c'est le dessin. Qui est très simple. C'est vraiment une exposition autour de la question du dessin et de dessiner. C'est une exposition qui est portée par des gens de l'Université de Columbia à New York, des professeurs notamment de l'université, avec beaucoup d'anciens étudiants. C'est beaucoup d'étudiants qui sont issus qui sont latinos, qui sont sino-américains, qui sont afro-américains. Et je trouve que c'est important aujourd'hui de montrer ce travail-là dans le contexte de Trump, où en fait, clairement, tous ces gens-là sont visés par la ICE et la police. Aux États-Unis. Et donc, il y a vraiment tout un prisme autour de ces pratiques-là et de ces artistes-là. Et le projet Draw, l'idée, c'est que c'est un projet qui est itinérant dans le monde entier. C'est-à-dire qu'il passe de ville en ville et qu'à chaque fois, lorsqu'il est montré dans une ville, on rajoute des artistes du coin, des artistes locaux. Donc, par exemple, c'était à Bogota. Donc, du coup, il y a des artistes de Bogota qui ont de Colombie qui sont intégrés à l'exposition et ainsi de suite. Donc, du coup, l'exposition grossit.
Okay.
Et à la fin, justement, les gens qui reçoivent cette exposition-là, ils font une sélection parmi les artistes qui ont exposé déjà. Et donc, c'est une expo assez belle parce que ça permet à des artistes de sortir de leur pays, de sortir de leur univers très local pour pouvoir être montrés de manière internationale. Donc là, on va montrer aussi 25 artistes du territoire de la Bretagne qui vont rejoindre un peu cette espèce de fond de collection. Et ils pourront être montrés. Là, la prochaine itinérance, après, ça sera aux Philippines. Donc, s'ils le désirent, ils pourront aller faire un tour aux Philippines.
D'accord, ok. Donc, on se retrouve du coup le 2 juillet pour le vernissage de Draw à Passerelle. Merci Loïc Le Gall. Mais avant de terminer, t'es arrivé ici pas tout seul. On est avec Pascal Varambon, alias Oiseau. Donc, t'es graffeur et t'es l'auteur de l'ouvrage Pour tout l'or de Brest.
Ouais.
Donc, hier, le jeudi 23 avril, il y a eu une discussion avec toi et le public, mmh. ainsi qu'une séance de dédicace pour ton livre. Comment ça s'est passé ?
Écoute, il faisait grand beau dehors et je pense qu'on a manqué un petit peu de monde.
Ah mince !
Néanmoins, ça s'est bien passé parce que les personnes qui sont venues étaient très intéressées par le sujet.
D'accord.
Et je suis ravi d'ailleurs d'avoir rencontré des jeunes graffeurs brestois qui étaient venus pour l'occasion. Donc ça, c'est un vrai plaisir parce que moi, je fais partie de la génération graffiti fin 80, début 90. Et ça montre que notre mouvement, notre culture est toujours vivante. Et de voir des jeunes de 20 ans qui s'intéressent à l'expo Brest sous les bombes ou qui s'intéressent au travers de la lecture, on va dire un peu à l'histoire du graffiti, c'est super, super important pour des gens de ma génération. Quoi.
Peut-être pu parler du coup avec des jeunes graffeurs
brestois. J'ai parlé
avec
des jeunes graffeurs brestois. Et en réalité, le graffiti, il a évolué dans la forme, dans le style, mais dans la manière de faire, dans le côté brut. Et le côté authentique, ça reste la même chose. Et c'est important qu'on puisse rencontrer comme ça des nouvelles générations qui, j'ai envie de dire, malgré les réseaux sociaux, malgré ce monde où on est informé de tout, où tout passe en direct sur les réseaux, eh bien, et on trouve des jeunes qui ont la même démarche que nous au début du graffiti et qui sont dans cette vibe, qui sont dans cette énergie. Et ça, c'est très, très important.
Et est-ce que tu peux me parler un peu de ton rapport avec l'exposition Brest sous les bombes ?
Et tout à fait. Alors, pour la petite histoire, moi j'ai amené quelques éléments dans cette exposition, notamment un reportage que j'avais fait ici lors de la Jam de 2000,
d'accord.
qui a eu lieu au port de commerce. Et moi j'ai découvert Brest et le graffiti brestois parce que, comme de nombreuses personnes, j'ai découvert ça à l'expo, hein, on était... nombreux à venir faire nos services militaires ici à Brest.
Oui.
Et c'était mon cas. Moi, je suis venu faire mon service militaire dans la marine en 1999.
Okay.
Et la première chose que j'ai fait en arrivant à Brest, c'était de chercher un graffiti shop. Et coup de chance, ce graffiti shop venait d'ouvrir. Il avait ouvert quelques semaines avant mon arrivée. Et pour vous dire, je suis arrivé habillé ici en matelot. Je suis arrivé peut-être au train à 17h. À 17h30, j'étais dans le magasin. Et la personne qui gérait cette boutique et qui était aussi un super animateur de la scène graffiti brestoise et on va même dire bretonne, m'a accueilli à bras ouverts et m'a permis de rencontrer, on va dire, les acteurs du graffiti brestois à ce moment-là. Donc on est à la fin des années 90.
Et donc. Tu savais graffer avant ? Tu avais commencé ?
Oui, moi j'ai commencé. Moi je suis un petit gamin de la région parisienne.
Mm.
Moi j'ai commencé... on va dire en 89-90. Voilà. Donc, j'ai commencé à une époque où il n'y avait aucun média sur le graffiti.
D'accord.
C'était impossible. Donc, on est parti dans un mouvement juste parce qu'on voyait des gars de notre quartier qui faisaient ça sur les murs et on a tout appris comme ça. Et, le premier bouquin m'est tombé dans les mains peut-être au bout de 2 ans que j'ai commencé à taguer ou à faire des graffitis. Et ce qui est important d'ailleurs, au travers de l'expo, là, de Brest sous les bombes, ce qui est génial, c'est que dans cette expo, tout ça est extrêmement bien retranscrit.
Mm-mm.
Ils sont allés chercher très loin dans des archives.
Mm.
Je voulais revenir sur la scénographie.
Mm.
Le côté patchwork, c'est pas pour rien qu'on retrouve cette scénographie particulière. Parce que dans le graffiti, on a un truc qui s'appelle les black books. Les black books, c'est nos livres avec nos photos, nos dessins, et l'expo est un peu à l'image de ce qu'est un black book. C'est-à-dire que quand vous aurez un black book, alors les black books des années 90-2000 ressemblent à ça, c'est des photos découpées avec des dessins partout, des mecs qui écrivent, des dédicaces, des trucs, et ce côté patchwork, un petit peu, je ne sais pas comment on pourrait dire, ça fait une sorte de palinceps de différents artistes qui sont comme ça représentés à plat en 2D dans un bouquin, on retrouve cet esprit dans l'expo.
Ouais, ça monte un peu la richesse vraiment du graffiti.
Ouais.
Et même, on peut trouver des black books qui sont exposés
sous des
vitrines.
Exactement, il y a des exemples de black books, c'est super important.
Ouais.
Ce truc-là, moi, je vais vous dire, mes black books, ils sont comme des trésors. J'en ai trois. J'en avais fait un premier black book qui était énorme, un format raisin. C'était très à la mode. On voulait avoir les black books comme avaient les gars, vous savez, qui sont dans les métiers de la mode et tout ça. Là.
Ouais.
Après, j'ai un black book qui était plutôt, on va dire, graffiti rue,
ouais.
voie ferrée, autoroute, et un black book qui était train, métro. parce que le train et le métro, c'était vraiment ce qu'il y avait de plus dangereux, il ne fallait pas se faire choper.
Ouais.
Donc j'imaginais, moi, dans mon délire de jeune graffeur, que si les flics venaient, peut-être que je pouvais planquer mon black book des trains ailleurs, essayer de dissimuler les preuves comme ça.
Ouais.
Et ces black books, je les balade depuis 30 ans maintenant.
C'est un peu tes petites histoires de l'art visuel à toi,
ouais, avec les copains qui sont passés dedans, les photos ont vieilli. Là, du coup, j'ai été contacté par Xelé, qui est commissaire de l'expo, pour ressortir des photos de ma période brestoise, qui sont venues se mettre avec d'autres photos qu'ils avaient déjà récupérées ici avec les autres artistes. Et ça permet d'avoir une image de la ville, l'ambiance qu'il y avait à Brest dans cette fin des années 90, début 2000, qui était assez particulière, car c'était une ville qui était un peu... on va dire que c'était un peu grisâtre, c'était un peu moribond, quoi. Et nous, on allait peindre sur le port du commerce parce qu'il ne se passait rien. Et les murs nous appartenaient. Et il y avait une sorte de zone de liberté totale.
Mm.
On pouvait passer à travers ces grands espaces. On coupait à travers les voies ferrées, les différents types de ports. Et on allait peindre à peu près là où on voulait. Et c'était génial.
Un espace d'expression libre
ouais,
au départ,
totalement initialement. Totalement ça. Et dans la démarche de la personne qui avait organisé la jam de 2000, il y avait cette idée de transcender cet espace, de le rendre aussi aux Brestois avec un événement. C'est un événement qui a été national, hein, cette jam de Brest. Hein. Il y a des graffeurs qui sont arrivés de toute la France et même des pays limitrophes. Et ils ont peint des kilomètres de murs. Et ça a très bien fonctionné et l'espace a été ouvert et les Brestois se sont réappropriés, on va dire, à ce moment-là, la rue, des endroits qui étaient totalement délaissés, que nous, graffeurs, skateurs, gens qui sont toujours dans les cultures un peu alternatives, on les connaissait, ces espaces. Mais le Brestois, il ne descendait plus au port de commerce. Lui, il allait sur d'autres endroits qui étaient un peu aménagés, qui étaient, on va dire, qui paraissaient safe, mais le port de commerce, ça paraissait, c'était une sorte de... On peut pas parler. C'est une sorte de ville abandonnée, quoi.
Mmh.
Voilà. Donc ça, c'est formidablement bien retranscrit dans l'expo.
Ouais.
Et avec ce travail que fait l'association Arcane, qui font de l'archéologie urbaine, en fait,
ouais,
on va aller chercher les différentes couches et on remonte, on montre comme ça l'histoire.
Ah oui, à la fin de l'exposition, les longues photographies, etc.
Ouais.
Tu parlais de palimpseste, enfin, c'est exactement ça, quoi.
Ouais.
Vraiment. C'est hyper impressionnant. Du coup, tu nous as raconté ton histoire en tant que graffeur, mais tu as quand même publié un ouvrage qui s'appelle « Pour tout l'or de Brest ». Ça mêle fiction et vérité. Donc, Pascal, tu étais toi-même le personnage principal. Au cours de tes aventures nocturnes, tu rencontres un SDF qui affirme posséder un trésor et le lendemain, c'est la stupéfaction, le sans-abri est assassiné. Ainsi, tu décides de quitter Paris pour Brest, qui va bousculer les Brestois. Pardon. D'où t'es venue l'idée d'écrire ce roman en commençant par ça, la rencontre avec un sans-abri?
Alors, j'ai fait beaucoup... quand t'es graffeur, tu fais de l'urbex sans le savoir. Nous, on a fait de l'urbex. On n'appelait pas ça de l'urbex. On allait rôder. On disait, on va repérer les dépôts, les trucs. Et on s'est baladé. Toute ma jeunesse, on a découvert des milieux extraordinaires. Et quand je me baladais là-dedans, je me tapais des films. On ne peut pas dire autrement, tu as 17 ans, tu te balades dans des lieux abandonnés ou des lieux interdits. Tu te dis toujours sur qui je vais tomber, sur quoi je vais tomber, qu'est-ce qui va se passer. Et j'ai visité tellement de lieux extraordinaires que moi, dans ma petite tête, alors je suis aussi auteur, réalisateur, je fais du documentaire. Donc, quelque part, tout ça m'a formé. C'est peut-être si aujourd'hui je suis auteur, réalisateur et journaliste, c'est peut-être parce que j'ai fait du graffiti avant, que ça m'a ouvert sur plein d'univers.
D'accord.
Et j'avais cette petite machine qui se mettait en route en permanence sur des histoires improbables que je n'osais pas raconter parce que ça restait un peu dans mon délire. J'ai tenté de raconter un peu la culture du graffiti au travers de documentaires qui n'ont jamais abouti. Car on me disait toujours le format ne plaît pas. Il y avait des raisons de casse, des trucs. Et à un moment donné, je me suis dit, j'ai envie de raconter notre culture du graffiti. Et je sens bien que ça ne va pas passer par un truc trop frontal, ça va passer par peut-être un biais, le biais du polar qui fonctionne très bien. Le polar se vend très bien, là, le vent en poupe. Je me suis dit, on va inventer un polar avec du graffiti dedans. Et là, je vais pouvoir toucher un maximum de personnes. Et l'idée est venue tout simplement d'expériences que moi, j'ai vécues dans le graffiti. Alors, c'est très romancé, je n'ai jamais été témoin d'un meurtre ou quoi que ce soit. Hein.
Attention.
Je prête mon nom au personnage. Le personnage n'est pas moi. Attention, hein. Moi, je prête mon nom au personnage. C'était, au début, je voulais chercher des pseudos et puis c'était tellement fatigant. À chaque fois qu'on cherche un pseudo dans Graffiti, il est déjà pris par quelqu'un d'autre.
Oui.
À un moment donné, j'ai appelé mes potes. Je dis, bon, est-ce que ça vous dérange qu'on prend nos blases et je les mets sur les personnages et tout le monde, ça fait marrer tout le monde. Mais quelque part, reste. C'était une manière de continuer à graver notre nom dans l'histoire. le graffeur ayant un ego trip démesuré, ça nous allait très bien. Donc voilà. Donc,
mais qui sont fictifs, on est bien d'accord, hein, les personnages.
Les personnages sont fictifs et très proches de la réalité de personnages que j'ai pu rencontrer.
D'où le fait qu'on parle de mêler fiction et réalité, mais du coup, qu'est-ce qui est réalité,
la réalité
dans ton roman ?
Dans mon roman, la réalité, c'est toutes les expériences issues du graffiti vandal.
Ah d'accord. Okay.
C'est très réaliste, très réaliste. Et je peux même vous dire, il y a une scène au début du roman qui se situe dans un commissariat à Paris, dans la brigade anti-graffiti. Aujourd'hui, je peux le dire, j'en ai plus rien à faire.
T'as payé ton amende.
C'est totalement la réalité.
Ah, d'accord.
Cette scène, il n'y a rien de romancé, c'est la réalité. Après, évidemment, ce qui est romancé, bah, c'est l'histoire autour du SDF, du trésor, la partie un peu, on va dire, aventure, polar, tout ça, évidemment, c'est romancé.
Ah oui, j'avais pas forcément compris, mais en gros, oui, c'est un roman, mais t'as des expériences qui t'ont arrivé, enfin, que tu as mis dans le roman.
Ouais, parce que ça. J'avais besoin que ce soit réaliste, j'avais besoin que mes pairs dans le graffiti se reconnaissent dans le roman.
Ouais.
Et ça, pour le coup, c'est assez réussi, parce que j'ai eu vraiment de très très bons retours des gens du milieu du graffiti qui reconnaissent. Je pense que c'est un des premiers polars qui fait découvrir cette culture aux gens et qui reste authentique. Parce que des polars, moi étant dans le graffiti, il y a beaucoup de gens qui m'ont amené « Ah tiens, regarde, il y a un polar qui parle de street art ou qui parle de graffiti. » Et au bout de 10 pages, on a envie de vomir. Parce que c'est fait par des gens qui surfent sur une vague. On parlait de Banksy tout à l'heure, on n'en peut plus, on n'en peut plus. Alors moi, j'adore Banksy, attention, Banksy, respect sur l'artiste. Mais les expos tribute to Banksy, mais pitié, au secours. Les polars qui nous mettent du Banksy dedans avec des trucs complètement fantasmés sur les graffeurs Robin des Bois ou des trucs. Non mais tout ça c'est insupportable.
Ouais.
Et quand on est un insider, on a envie de véracité, on a envie de propos vrais. Et là mon polar, on est dans la réalité quoi.
Du coup ça a été un peu une manière pour toi d'écrire une histoire un peu plus authentique, du graffiti moins fantasmé.
Ouais.
D'accord, ok.
Complètement.
Et, du coup, tu es à la fois graffeur, tu disais. Il y a l'écriture aussi et il y a la vidéo.
Ouais.
Du coup, tu as différents rapports à l'art. Ça te permet d'être pluridisciplinaire. Ça t'aide aussi dans ta créativité.
Bah, je pense aujourd'hui, tout est complémentaire.
Mm.
Et je pense vraiment que. Moi, je suis vraiment issu d'une famille. Il n'y a pas une once d'art à la base dans ma famille. Hein.
Mm.
C'était. Vraiment, on était loin de tout ça, quoi. Et moi, je suis tombé dans le graffiti, entre guillemets, ça m'a sauvé la vie, je pense. Et c'est, on en parlait un petit peu hier, moi, le graffiti m'a permis de ne pas me barrer en sucette. J'habitais à un endroit, j'avais des relations qui n'étaient pas forcément saines. Et le graffiti m'a emmené vers une voie où j'ai trouvé ma voie grâce au graffiti. Le graffiti m'a ouvert sur le monde. Ça m'a permis d'avoir un mode d'expression. Et petit à petit... On va dire j'ai appris à travailler avec ma liberté et ça quelque part si aujourd'hui j'écris si je suis capable d'aller vers des gens c'est grâce au graffiti. L'école de la rue, l'école du graffiti m'a permis de m'ouvrir au monde quoi.
Ça t'a éduqué.
Ça m'a éduqué. Mmh. Et ça a éduqué pas mal d'entre nous. Ouais. Et j'ai envie de dire vaut mieux que vos gamins ils aillent taguer dans la rue qu'ils restent bloqués derrière un écran et à fumer de la merde ou j'en sais rien quoi. Mais là, vraiment, le graffiti, moi, nous, ça nous a sorti. Et je parle de nous parce qu'il y a toute une génération comme ça.
D'accord. Très beau et très inspirant. Est-ce que tu aurais des réseaux sociaux ou je ne sais pas, si on a envie de te contacter, faire un retour sur ton roman
Potentiellement. Moi, aujourd'hui, c'est Insta. Donc, j'ai un Insta. Vous tapez WAZO.
D'accord.
Là, vous avez mon Insta Graffiti Vandal. Et après, j'ai un autre Insta un peu plus, dans les règles, plus en rapport avec mes activités artistiques. Et là, c'est Pascal Varambon, Oiseau. Voilà.
Bon, bah, très bien. Bah, merci, merci Pascal Varambon, alias Oiseau, d'être venu à l'antenne. Et merci Loïc Le Gall de nous avoir présenté l'exposition Brest sous les bombes.
Merci à toi.
du coup, quant à nous, on se retrouve demain pour la prochaine quotidienne de C'est vous qui dites. Et on va terminer par une petite pause musicale. Retour dans les années 80 aux États-Unis. Le rappeur-compositeur américain Milk Bone sort alors Keep It Real, classique du rap américain dont le sample aura inspiré de nombreux rappeurs, dont Big L et Jay-Z notamment, ou Logic. Bonne écoute sur Radio U.
Sit back and talk about gats and glocks and busting caps on blocks, cracking on practice cops. You couldn't handle when I'm deep like a diver. The kooky corner canal keeps my streets live. I play the DL and watch the outskirts. I write an ill verse, I never shout words that makes my mouth hurt. I go to Boobie's place and rap the Boobie breaks, popping in the Fuji tape and watch all the moves we make. We're getting up until we're choking. I feel over in the tempo and beyond. I got the ball, but you're soaking. I generate the girls good night. I spread the hood like my lyrics and my style don't match what I look like. You know not to pass judgment. My ass ain't budging. I kill a fast dozen of your fam and fuck your last cousin. Straight from Jersey, doing just what I feel. Steal a meal, I'm the druggie to deal, but keep it real. Without speed bumps, I roll a tree stump, so giving free blunts. I only had to smoke weed once to rap while I puff that and chill as I buff back and grab my nutsack and fairy crews who fuck fangs. See, I'm the broke bitch that you don't wanna smoke with, but rhyming since the days of puffing joints out the road clips. I wake up every morning and I always wonder why peeps are OD. Treat my streets like a slumber. This ain't a vacation spot, so go clean your glocks. So many names with spray cans, we can paint the blocks. I dreamed up, I never chill with no creeper. Hanky sporty gear, the bottoms of my saggy jeans cuff. I keep the power to speak, I ain't a flower for freaks. My dirt's deep, I even go without a shower for weeks. So back a forfeit, your fags had a forfeit. I wet so many heads, they call my crew Farrah Fawcett. Sprinkle over here, there, whenever I feel. I'm no beginner or winner, but my deal will keep it real.
And my mentality is keeping it real, back and still getting high.
Keep it real.
We're beginners in the hood. And my mentality is keeping it real, back and still getting high.
Keep it real.
We're beginners in the hood. And my mentality is keeping it real, back and still getting high.
I keep it real.
We're beginners in the hood. And my mentality is keeping it real, back and still getting high.
No, it's no illusion. I'm grooving. The L got my brain moving. The pain soothing. And my crew got the same movement. The boom's like the moon on the run. The sun steady sparking, the dog daily where we come from. I cool with the careless kids who rock crusty fronts. They got rusty lungs from smoking dusty blunts. They puff like pros, so call them ashtray mouth. Cause Amboy's a halfway house and this is my last day out. So I'ma catch wreck, knock off the headset. Falling holes of 5-0 will make the fucking fence sweat. I'm from the ass cracker Amboy, AK the violent villain. Dirty Delaney is where I be illin'. My tiny town is thumbs down, fingertips are splitting blunts. Competition walks away facing fronts. I fully break beat to dominate my ill fate. Lamping on the milk crate until late, it feels great.
We were beginners in the hood, and my mentality is keeping it real, back and still getting high.
Keep it real.
We were beginners in the hood, and my mentality is keeping it real, back and still getting high.
Keep it real.
We were beginners in the hood, and my mentality is keeping it real, back and still getting high.
Keep it real.
We were beginners in the hood, and my mentality is keeping it real, back and still getting high.
Because it's real.
C'était Milk Bone, Keep It Real, gros sample des années 80 qui a été repris, qui a été réutilisé dans plein de tracks de rappeurs. Comme quoi le hip-hop, c'est avant tout aussi des rencontres, des influences. Et j'ai mis Milk Bone pour une track que j'ai connue quand j'étais un peu plus jeune de Jazzy Bass qui s'appelle 64 mesures de spleen, qui reprend ce sample-là. Bonne écoute sur Radio U. Thank you.
les soirs j'ai le spleen. Envoyez le style, je peux le faire car je suis assoiffé de rimes. Ma vie c'est rock et le beat, composer le hit. Pour choper le titre, tu connais le type, je vais empocher le fric. J'ai grandi dans Paris 19ème, j'écris de tristes thèmes. Trop de prises de tête, je suis rempli de peine. Et c'est juste ouvrir l'œil, la vie c'est passager. J'évite de m'attacher car on va tous mourir seuls. Je connais pas mon heure, je pense à mes potes dont les parents meurent. Puis au mien, et comme d'hab j'en pleure. L'amour c'est dangereux, y'a que l'amitié qui me rend heureux. Si ça sent le feu, ils sont là quand je veux. Donc on traîne en bande, on fait la guerre en gang. La ville est tellement grande, je m'y perds. Mais j'aime sa putain d'atmosphère ambiante. C'est l'homme qui a bâti tout cet univers. Réunit tous les éléments permettant l'avènement de Lucifer. J'ai vu des drames horribles, ça m'en a shooté le cœur. La vie un bouquet de fleurs qui se fanent trop vite. Faudrait faire tourner la roue. Je donne l'alerte, pire je sonne l'alarme avant qu'elle ne coule sur ta joue. Ici on se casse les dents pour pas grand chose. Je vois la vie en rouge car les flaques de sang sont rarement roses. C'est la vie de la hure. Je pense à l'époque où nos mères fuyaient les dictatures. Merde on est immature. À peine débarbouillé je pars vadrouiller dehors. Les flics vont patrouiller puis nous fouiller le corps. Là je t'expose mon avis d'expert. Car je fais tous les jours la même chose. Même le jour de mon anniversaire. Tous ces blêmes font que la coupe est pleine. Rien à foutre des élections. Mec nos vies seront toujours les mêmes. On a le sang chaud. Parqué dans des enclos comme des andouilles. Au beau milieu des embrouillés des sanglots. Je veux un style de vie d'enculé. Grosse haleine de clope. Faut que j'arrête de smoke. J'ai pas envie de partir en fumée. La santé avant tout. Moi je suis bien qu'en façade. Mais depuis que je suis malade je gratte comme un savant fou. Les enflures gaz dès que je lance une phase. Ferme tes fesses. On est comme des SDF. Nous il nous manque une case. Je fais pas de politique car c'est une mascarade. Avec mes camarades nous on trouve ça juste humoristique. Pour ta gouverne sache qu'on gère nos bails. Même si on a le cerveau d'ail, on sera jamais de vulgaires cobayes. Si tu nous escroques mec tu vas dévorer le sol. Je rappe et je m'exporte. Ma vie c'est sexe, drogue et rock'n'roll. Il faut que je me normalise, que j'arrête de roupiller, de tout oublier et de bousiller mon organisme. C'est ça la vie des jeunes. On a acquis des guns avant même d'habiter seul. Mec à mon avis c'est chum. Faire l'amour ça n'existe plus. L'amour est mort dans un film de cul. Bitch on te pisse dessus. Je veux pas qu'une pute soit la merde mes gosses. On va te faire les poches. On est en bas à force de perdre des proches. Ouais la réalité est triste en chialé. Nique. Au lieu de chagriner, je l'ai mise dans mon cahier de rimes. Je vais disséquer vos corps. C'est comme ça qu'on fait le deuil. Mon sol est jonché de feuilles comme si c'était l'automne. Dès que je suis élancé, tu flippes. Si je sors un album, tu vas dépenser du fric. Je gratte et je développe des pensées multiples. C'est quand j'ai du spleen que je peux déclencher du style. Tu le sais, mec, dès que je suis élancé, tu flippes. Si je sors un album, tu vas dépenser du fric. Je gratte et je développe des pensées multiples. C'est quand j'ai du spleen que je peux déclencher du style. C'est quand j'ai du spleen que je peux déclencher du style. C'est quand j'ai du spleen que je peux déclencher du style. Jazzy bass.
Radio U.